Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ.
Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.
Voilà, merci. Donc, pour rappel, et puis on le verra aussi dans la suite encore, hein, on est, l'épître de Pierre, on est beaucoup sur le thème de la souffrance. Et puis là, l'apôtre nous parle de la souffrance que Jésus-Christ a enduré pour le péché, lui qui a souffert de manière injuste et lui qui nous a montré un exemple de cette souffrance, comment il a pu l'endurer et comment aussi Dieu l'a relevé et l'a amené au ciel. Hein. Il y a toujours une espérance par rapport à la souffrance. Nous, en tant que chrétiens, on a cette chance-là. On sait que la souffrance n'est pas une fin en soi. Avec le Seigneur, il y a tant de versets dans la Bible qui nous parlent de la souffrance. C'est un sujet qui est vraiment très, très, très vaste. Et puis, ici, ce que Christ a enduré nous est donné comme un exemple et comme une exhortation pour demeurer dans la foi dans les temps difficiles. Et puis, le verset 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois, verset 20, avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Alors, ces trois versets-là ont donné quand même souvent plusieurs interprétations. Certaines personnes s'appuient sur ces versets-là pour dire que Jésus-Christ est descendu en enfer et qu'il était prêché l'évangile en enfer, afin que ceux qui n'avaient pas entendu l'évangile, ceux qui étaient nés avant la venue de Jésus-Christ n'avaient pas pu entendre l'évangile, mais que ceux qui étaient en enfer, quelque part, puissent entendre l'évangile et avoir un peu comme une seconde chance de salut. Alors, vous verrez, en tout cas pour moi, ce n'est pas l'interprétation que j'en fais, mais je vais vous la détailler un petit peu plus. Parce que ça pose la question, mais d'une deuxième chance, hein, d'une deuxième chance après la mort. Ça contredirait aussi un verset de la Bible qui dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Hein. Donc déjà là, on sera un peu embêté avec ce verset. Et puis après, on peut penser aussi à toute la doctrine du purgatoire dans le milieu catholique, hein, qui aurait aussi un lieu, une seconde chance du salut. D'ailleurs, je lisais aussi, mais je n'ai pas été plus en détail que ça, mais le fondateur des témoins de Jéhovah, pour lui aussi, il y avait une seconde chance. Hein, donc, on voit qu'on est quand même dans l'hérésie quand on commence à partir dans ce genre d'enseignement. Et puis, en fait, il ne nous est pas parlé ici de l'enfer, mais il nous est parlé au verset 19 d'esprit en prison, en grec phulaké. Donc une prison, C'est un lieu dans lequel tu purges une peine et puis qu'un jour tu pourras en sortir, hein, à part si tu as pris perpétuité. Mais la prison, il y a quand même une idée de pouvoir sortir de cet endroit-là. Alors que l'enfer, si on a une compréhension biblique de ce qu'est l'enfer, l'enfer, on n'en sort pas. Hein. On peut penser à différents textes de la Bible, mais je ne vais pas aller là-dessus. Mais on voit que l'enfer, c'est définitif. Hein. C'est un lieu d'où on ne peut pas revenir. Donc une prison, c'est un lieu d'où on peut ressortir un jour. Une fois la peine traversée. Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Comment? Alors, ben, si on lit simplement dans la suite, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, on est dans un temps spécifique, on est dans le temps de Noé. Et Jésus a été prêché aux esprits en prison, prison à cause de leur péché, hein, ils étaient prisonniers à cause de leur péché, c'était leur âme qui était en prison en fait, hein, comme nous tous qui avons été esclaves du péché. Et c'est Jésus qui nous a libérés de cette condition d'esclave au péché. Bien sûr qu'on doit continuer à lutter contre le péché, hein, on n'est pas parfait. Le péché, on le sait, hein, il était vaincu et vaincu seulement par le sang de Jésus-Christ. Donc, en fait, ce texte-là nous projette en arrière, nous parle du temps de Noé, où il y a eu seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Et ces 8 personnes et toute cette eau étaient aussi une figure du baptême, verset 21. Donc il n'y a eu que 8 personnes, c'est quand même triste, hein, qui ont été sauvées du temps de Noé, les gens de sa famille, et le 8e, qui était le 8e, c'était notre ami Noé, prédicateur de la justice. D'ailleurs, c'est Pierre qui en parle un petit peu plus loin. On peut regarder dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, Noé a été un prédicateur de justice et un prédicateur de repentance. Et en fait, Jésus, comment est-ce que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, esclave du péché? Au travers simplement de Noé, de la prédication de Noé. Hein. Et ce n'est pas Jésus qui s'est déplacé lui-même corporellement au temps de Noé pour aller annoncer cette prédication-là. C'est la prédication qu'a portée le serviteur Noé. Voilà. Donc je pense que là, si on fait une interprétation comme celle que je viens de vous apporter, ça éclaire un petit peu le texte. Et puis on voit que Pierre, d'ailleurs, c'est pas pour rien, il en reparle aussi un peu plus loin dans la deuxième épître de Pierre, et nous donne de comprendre que ces esprits en prison, en fait, c'était pas l'enfer, c'était les gens qui étaient captifs du péché. Et malheureusement, hein, il y en a que 8. Noé a été le 8e. C'est-à-dire que Noé, il était le dernier, on peut s'imaginer. Il était sur l'arche, en train d'attendre parce qu'il avait prêché. Il avait prêché que le jugement allait arriver. Et il attendait, il disait, mais j'espère encore, on peut imaginer ça, hein, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir encore. Parce que la porte était ouverte. Et à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Et voilà, et le jugement est arrivé. Hein. Donc une fois j'avais lu, je me rappelle un texte sur Noé le prédicateur pour nous encourager à l'évangélisation. Parce que Noé, il y a eu lui qui était sauvé plus sept autres. Hein. C'est pas énorme. Puis on s'imagine pas combien d'années il a prêché.
Justement, il y a juste Marc Arthur, la version qui dit qu'il aurait eu 120 ans la construction de l'arche.
Alors, vous imaginez. Ouais. Ben voilà, hein. 120 ans de ministère. 7 convertis. Dans un monde complètement détourné du Seigneur. Ouais. Pas facile, hein, le ministère de Noé. Hein.
Il construisait l'arche, il n'avait pas le temps d'aller prêcher.
Oh, ben, je pense qu'il a quand même, des fois, il devait quand même poser le marteau parce que choper les crins pour le commun. Mais pas facile, hein, son ministère. Là, je lis juste un verset, je vous lis juste comme ça, là, dans Matthieu 24, vous connaissez aussi. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Donc voilà, hein, on est aussi un peu dans ces temps-là où les gens ne se doutent pas des fois de ce qui peut arriver dans la suite des temps. Donc, soyons un petit peu quand même vigilants suivant l'enseignement qu'on entend par rapport à ce passage-là. Bon, on peut se tromper, hein, on est humain. Mais moi, j'ai entendu quelque chose d'un petit peu plus grave venant d'une femme qui s'appelle Joyce Meyer et qui enseignait justement que Jésus est descendu en enfer et que si on ne croyait pas de cette manière-là, bon, on n'était pas véritablement sauvés.
Hein. C'est pas les scientistes, hein? Madame Meyer,
non? Non, c'est une Américaine.
Ah, ok.
Ouais. Elle est assez connue dans le milieu évangélique. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est entre guillemets un peu à la mode actuellement. Donc, si on commence à rajouter des conditions au salut en voulant bétonner notre enseignement, c'est quand même un chemin un petit peu dangereux, quoi. Hein. Donc voilà. Alors, moi j'aurais fini pour cette fin de chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres remarques.
Dans Marc 16, c'est marqué celui qui croira sera sauvé. Il n'y a pas besoin de chose. Marc 16, le verset, je ne sais plus. Qui s'essaie aussi.
Ouais. Et qui sera baptisé.
Moi, je me demande, là, ça me pose des questions, parce que Dieu prolongea l'époque de Noé. Je dis, est-ce qu'il prolonge aussi notre époque? Parce que alors, nous, on est...
Ça, c'est où?
Là, au 20. C'est la même.
Amen.
Il révèle autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongea à l'époque de Noé.
Ouais, ouais.
Oui, hein, ça, il y a un peu cette même idée quand Dieu dit c'est l'apôtre Paul qui dit ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit actuellement, oui. Mais que Dieu prolonge sa patience, hein, voulant que tous soient sauvés. Hein, il prolonge, bon, ça c'est un peu mon interprétation, mais. Il prolonge, pourquoi? Dans un sens où on mériterait tous le jugement sur le moment même. On est tous dignes du jugement. Mais je pense que l'heure est fixée de l'autorité du Père. L'heure est fixée. Et puis qu'à un moment donné, quand l'heure sera là, il va plus prolonger. Mais dans sa grâce, il prolonge. Et puis, c'est vrai que quand nous, on a l'assurance du salut, ben des fois, on se dit, mais Seigneur, voilà, pourquoi pas maintenant, hein? On a tous cette aspiration à avoir le retour de notre Sauveur. Mais il prolonge. Comme il a prolongé pour nous aussi, parce qu'il aurait pu venir aussi plus tôt, et puis on se serait retrouvé jugé. Mais 120 ans, hein, en effet, 120 ans de... Et pourtant si peu de sauvés. Hein,
c'est pour ça qu'on pédale maintenant, on a de la peine à avoir des résultats. Hein. Si eux, déjà à l'époque, pendant 120 ans, hein, la construction, ils ont eu si peu, mmh. qui ont voulu se repentir. Mmh. On peut comprendre maintenant qu'on peut aller prêcher dans notre entourage, dans les membres de nos familles, tout ça, et puis on a une résistance terrible.
Ah, c'est pas facile.
Puis l'interprétation, par exemple, depuis les premiers hommes, si on peut prendre les Cro-Magnons, jusqu'après Homo sapiens, tout ça, si on passe par toute cette lignée depuis la création, ces gens-là, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ou éventuellement, eux, ils sont tous morts. Et eux, comment on peut les... Ils sont comment classifiés, ces gens-là? En admettant qu'on nous pose cette question, nous, chrétiens, ça peut nous arriver, hein, tout d'un coup, on nous dit, et puis c'est comment le Seigneur, disons, va se comporter ou se comportera vis-à-vis de tous ces gens-là, qui n'ont pas connu, qui n'ont pas eu cette sagesse ou la bonté et la grâce que Dieu se révèle à eux. Allez, cette époque-là, on en voit, hein, on nous dit bien que au début, la création a été créée, puis il y a eu Cro-Magnon et Homo sapiens, mais entre deux, il y a eu encore une autre. À moins qu'on n'y croit pas, tous ces premiers hommes, ces premiers qui ont été créés, quoi. À moins qu'on dise non, non, tout ça, c'est faux, c'est uniquement les humains qui l'ont inventé. Les premiers hommes qui sont nés en Afrique, et ce qui est paru l'humanité partout depuis l'Afrique, d'après notre entourage, ce qu'on entend, les scientifiques, tous les gens. Comment il faut interpréter ça? Parce qu'on peut être confronté à des questions pareilles, nous, en tant que chrétiens. Mmh. On vient vers nous et puis qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on peut répondre qui soit juste, qui soit correct par rapport à la parole du Seigneur?
C'est pas évident, hein.
Ouais, on est bien d'accord. C'est des questions qui peuvent nous être posées en tant que chrétiens.
Alors bon, ben, on peut repenser à l'enseignement qu'on avait eu avec Pierre Hamet.
Voilà.
Hein? Et puis, voilà, moi je crois en un Dieu créateur, donc je suis moins convaincu, mais je ne dis pas qu'on a tout compris. Il y a encore des mystères, hein, encore que la science aujourd'hui n'a pas expliqué. Et puis moi, je ne suis pas trop convaincu qu'on a eu tant de générations qui nous auraient précédés. Et puis je trouvais intéressant justement de voir que l'histoire, on peut la voir aussi peut-être par rapport à l'histoire de notre Terre, beaucoup plus courte, et que d'ailleurs certains géologues vont le dire, que ce qu'on nous annonce avec des millénaires, des millions d'années, s'étalent sur une durée infinie pratiquement, qu'en fait, c'est pas forcément... On est dans ce qu'on appelle une théorie de l'évolution, et on n'est pas avec des faits scientifiques vraiment qualifiables et prouvables. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Mais maintenant, il y a quand même aussi une question que tu soulevais, la question du salut avant Jésus-Christ. Voilà. Et puis ça, Paul, il en parle dans l'Épître aux Romains, où ceux qui ont eu la loi, ils seront jugés selon la loi. Ceux qui auront eu l'évangile, entre guillemets, ils seront jugés selon l'évangile. Et puis ceux qui n'auront ni eu l'un ni l'autre, ben, ils seront jugés selon leur conscience.
Voilà.
Donc
on peut voir les tribus, tribus même actuelles, hein, qui n'auraient jamais entendu parler de Jésus, qui n'auraient jamais encore été atteintes par le message. Pourtant, ils ont toujours cette idée, ces peuples-là, d'un Dieu. Hein, ils sont spirituels quand ils recherchent. Ils voient, ils verront Dieu dans les arbres, dans la nature, etc. Mais il y a quand même cette spiritualité quand même qui est innée, qui est donnée dans l'homme, quoi. Cette aspiration au Dieu créateur.
Mmh.
Ouais. Excuse-moi, je t'interromps.
Non, pas du tout, non, mais c'est ça. C'est ça, hein. Puis même, on peut dire, peut-être même chez nous aujourd'hui, entre guillemets, on a des tribus qui. Dans le sens qu'on a des gens qui n'entendent plus du tout l'évangile.
Ah,
hein, que ce soit des gens de bonne famille ou c'est égal. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas entendu l'évangile. C'était hier, là, j'ai témoigné à un jeune, mais je parlais de Jésus, je vois qu'il me regarde avec des yeux comme ça, j'avais l'impression que j'étais le premier qui lui parlait de Jésus, hein. Je dis pas que c'était le cas, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a des gens qui de toute façon, certainement aujourd'hui dans notre société, ne connaissent pas véritablement l'évangile. Ils auront peut-être entendu parler de l'église, mais d'un truc un peu... poussiéreux, rétro, et puis voilà.
Pour eux, ils sont réfractaires, il me semble. Ils refusent la notion. Ne serait-ce que la notion, ils la refusent déjà d'entrée. Parce qu'ils disent non, nous, quand on est mort, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Ils ne voient pas plus loin. Ils n'ont pas, ils ont pas la pensée de l'éternité en eux, dans leur cœur, disons. Ils réagissent comme ça, certains.
Oui, ouais, mais parce qu'on les enseigne aussi à l'école déjà dans cette voie-là. Et puis ça peut bétonner leur réflexion. Bon, pas seulement à l'école, mais dans leur foyer aussi. Hein. Donc, après, bien sûr, les cœurs sont peut-être plus durs. Hein. Mais bon, le Saint-Esprit est suffisamment puissant pour convaincre encore aujourd'hui. Hein. C'est sûr, hein. on ne doit pas se décourager. Mais notre ami Noé, on est du courage, il en avait. Hein. 120 ans, ouais. 7 convertis plus lui. Ouais. Mais ouais. Dieu est reparti. Hein?
Non, je dis c'est déjà ça. Hein.
C'est déjà ça.
Ouais. On a peur,
Mais Dieu est reparti là-dessus. Hein? C'est là où on voit la bénédiction et la multiplication du Seigneur. Il est reparti d'un petit reste. Comme aussi Élie, qui à un moment donné était découragé avec sa lutte contre les faux prophètes. Hein. Puis Dieu va lui dire, mais il y a encore un reste qui m'est fidèle. Et puis le Seigneur, il regarda ça. Hein.
Ouais. Mais est-ce que Dieu a eu des regrets du déluge? Parce qu'après il a dit qu'il détruirait la terre. Comment ça lui est venu?
Ben, on peut s'imaginer qu'il y a une souffrance quand même, hein, terrible. Parce que, je sais pas, on peut pas s'imaginer ce que ça a été, hein, le déluge. C'était d'une violence terrible. Hein.
Quand tu as parlé de regret, toi, que Dieu a regretté. Ouais. Mais j'ai aussi lu ça, mais par rapport à Saül, je regrette Saül. Ouais. Il faut voir l'aspect de tristesse. Il faut pas avoir un autre aspect que l'aspect de tristesse de Dieu. Mais pas le regret parce qu'il s'est trompé.
Voilà, ouais. On voit hein, qu'il y a un déluge déjà. Je ne sais pas si vous avez vu en Floride là aussi hein, au mois de janvier. Il y a eu des coulées de boue aussi. Il y a eu plusieurs morts. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais ou bien ça peut aussi arriver chez nous. Hein, j'entends. Mais c'est terrible. Hein, on peut s'imaginer. Hein, ça n'a rien à voir avec le déluge. Mais comment les gens ont dû être emportés et la désolation qu'il y a eu sur cette terre. Hein. On peut se rappeler le tsunami aussi là qu'il y a eu en Thaïlande. Donc il y a certainement eu des phénomènes comme ça, mais fois 100. Hein. Non, ça a dû être terrible. Hein.
Ouais. D'après les rochers qui ont été usés par eux.
Ouais, c'était puissant. Hein. Alors, on continue. Donc, sur le quatrième chapitre, alors je vous partage juste une petite vue d'ensemble avant qu'on le lise, qu'on lise la première partie. Donc, les versets 1 à 6, c'est sur le thème « Souffrir dans sa chair ». Les versets 7 à 11, « L'urgence des temps de la fin ». Les versets 12 à 19, et puis là, je fais il y a un petit peu des sous-chapitres. « Réjouissance au sein de la souffrance ». Parce qu'elle éprouve notre foi, le verset 4-12, parce qu'elle est une participation aux souffrances du Christ, et puis, troisième sous-chapitre, parce qu'elle nous prépare à la gloire de son retour. Donc, vous voyez, on est bien dans le thème de la souffrance. On se rappelle aussi, parce qu'on avait vu au début, mais ça date hein, de l'étude, que Pierre avait écrit, ça c'est chapitre 5, verset 13, il avait écrit cette lettre à partir de Babylone. Hein. « L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » On avait vu que Babylone, c'était peut-être plus un sens symbolique que véritablement la ville elle-même, et puis qu'elle représentait Rome, parce qu'il y a de fortes chances que comme Paul, que Pierre ait aussi été à Rome, et que cette lettre, en fait, a été écrite juste avant le début de la persécution, quoi, quelques temps avant le début de la persécution sous l'empereur Néron, en l'an 64. Et puis que, en fait, la deuxième épître de Pierre a été écrite après cette époque-là, dans les années 67, après la première grande persécution, la deuxième épître de Pierre. Et puis, une lettre aussi qui a été écrite à la même époque que aux alentours de 67, après la grande persécution de Néron. C'est aussi 2 Timothée. Et puis, si une fois vous avez envie de lire 2 Timothée, tout d'un coup, peut-être vous repenserez que l'apôtre Paul, en fait, il avait traversé déjà la terrible persécution sous Néron de 64. Puis vous verrez qu'en effet, cette lettre, elle prend du profil. Et puis, vous voyez qu'il y a quelque chose, en effet, qui est sous-jacent à ça. Hein. On peut s'imaginer aisément, en lisant 2 Timothée, en pensant que Paul l'avait écrit à Rome à cette époque. Il était à Rome à cette époque. Hein. Il avait traversé ce moment-là. Il dit « J'ai été libéré de la gueule du lion ». Donc, on peut s'imaginer que ce n'était pas seulement symbolique, mais il a échappé au jeu du cirque, hein, parce qu'il y a des chrétiens qui sont morts ainsi. Donc, voilà. Donc, on est quand même dans des contextes pas faciles que l'écriture, que ces lettres-là. Et pourtant, elles sont remplies d'espérance, elles sont remplies d'un enseignement qui fortifie encore notre foi aujourd'hui. Donc, on peut continuer la lecture, je ne sais plus qui c'est qui avait fini là, mais on peut lire déjà les versets 1 à 6, donc Pierre 4, déjà 1 à 6.
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le verset
3. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement et débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront les comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Je continue ?
Oui.
En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit.
Voilà, merci. Donc, les souffrances dans la chair. Ici, la chair, c'est un mot qui est assez connu en grec, c'est sarx. Et puis, la chair, elle peut avoir différents sens. Hein. Un sens qui nous est assez connu, hein, ne pas vivre selon la chair, ça vous dit quelque chose. Hein. Donc, la chair, c'est la vieille nature corrompue de l'homme qui s'oppose toujours à la volonté divine. Mais ici, ce n'est pas cette idée-là, pourtant, c'est le même terme, hein, sarx, c'est exactement le même. Hein. C'est la chair, mais c'est notre corps fait de chair, en fait. Hein. C'est notre corps fait de chair, notre corps humain. Et Christ a bien vécu dans la chair. Hein. On a une preuve ici, hein, de plus, dans les Écritures, que Jésus a été fait chair. Hein. Il habitait un corps en tout point semblable au nôtre. Il n'avait pas un corps avec des super pouvoirs, un corps particulier. Non. Bien sûr, il était conçu au travers du Saint-Esprit, mais il était bel et bien fils de Dieu, mais il était aussi fils de l'homme au travers de Marie. Hein. Donc, Christ a souffert dans sa chair, et nous, on ne doit pas être surpris si on va souffrir aussi dans notre chair. Parce que oui, la souffrance, ce n'est pas que juste un truc qui nous flotte par-dessus. Hein. Des fois, ça vient nous pénétrer. On est un corps de chair. Il y a aussi tous les martyrs, bien sûr, hein, qui ont véritablement souffert physiquement. Et aujourd'hui, on est à une époque où il y en a terriblement, d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui payent de leur vie leur foi. Et donc, on ne doit pas être surpris que sur cette terre, on aille à souffrir dans notre chair. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Le péché, c'est-à-dire vivre pour soi-même, vivre centré que sur soi-même. Si on vient à souffrir, c'est un signe parmi tant d'autres. Hein. Ce n'est pas un signe qu'on doit chercher à tout prix. Hein. Je veux les persécutions, Seigneur, je veux te montrer combien je suis fidèle. Je te suivrai jusqu'à la mort. Hein. On connaît Pierre, hein, quand il a fait cette déclaration, l'apôtre, ça n'a pas été bien loin. Hein. Mais voilà, on est quand même rendu participant aux souffrances du Christ. C'est un mystère. On passe un peu par le même chemin. Et puis, ça vient bien attester que si on passe par ce chemin-là, on est aussi enfant du Seigneur. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas, je crois, ce qu'on doit chercher avant tout. Donc, par rapport à cette souffrance dans la chair, là, jusqu'au verset 6, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez envie de réagir? Après, moi, je vais commenter la suite des versets.
Oui, il y a un passage, là. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'il faut interpréter, ça?
Mm-hmm. Ouais, ouais.
Tu vois, ce qu'on
disait tout à l'heure. On est dans la même idée, ouais, tout à fait.
On est dans la même idée, mm-hmm. là, avec ça. Donc, il faut le comprendre dans quel sens.
C'est avant.
Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Hein. Le jugement, il est imminent hein, dans la pensée du Seigneur. Car l'Évangile a aussi été annoncé aux morts. Voilà, il y a des gens qui ont pu entendre l'Évangile, mais qui sont morts en 64. Hein. On est déjà passé 30 ans après la résurrection du Seigneur.
La
résurrection. Disons que si on dit en 33, plus ou moins la résurrection. Donc la lettre était écrite en 64. Mm-hmm. On est passé 30 ans après la résurrection du Seigneur. Donc il y a déjà à ce moment-là des gens qui sont morts. D'ailleurs, on voit que ça pose des questions. Hein. On peut penser à une église qui posait la question à Pierre. Mais ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'il en est devenu? Voilà, il y a des enseignements qui sont venus sur la résurrection aussi par rapport au saint. Hein, c'était des questions tout à coup qui se soulevaient. Mais si on ne croit pas à la résurrection, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts? Et puis là aussi, ça donnait des fausses interprétations. Parce que les mormons, justement, ils vont s'appuyer là-dessus pour se faire... Pour se baptiser au nom de tous ceux qui, de tous leurs ancêtres, hein, qui n'auraient pas été baptisés. Mais non, c'était, si nous on se fait baptiser, ben, on a aussi l'espérance que ceux qui sont morts avant nous, un jour, on va les rejoindre. Hein, c'était cette idée-là. Donc là, on est dans le même genre de, je pense, hein, on est dans le même genre de pensée, par rapport à, en fait, ceux qui ont entendu, à l'époque, l'Évangile et qui étaient déjà décédés.
En fait, les vivants, c'est ceux qui sont en Christ. Les morts, c'est ceux qui n'ont pas accepté Christ.
Aussi, ouais.
Dieu va juger les vivants et les morts, ceux qui ont entendu mais qui n'ont pas voulu.
C'est ça. Ouais. C'est vrai que ce verset 6, on peut l'interpréter, je pense, aussi pleinement comme ça. Mm-hmm. Hein. L'Évangile a aussi été annoncé aux morts. À chacun d'entre nous, hein, quelque part, si on vivait à cette époque-là. Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, nous avons aussi été rendus vivants. Ils ont été rendus vivants par l'esprit. Comment? Parce qu'ils ont cru en la prédication de l'Évangile. Hein. De morts qu'ils étaient, ils sont devenus vivants par l'esprit du Seigneur. Ouais. Mais bon, ça, ça c'est aussi un thème qui est tellement énorme, hein, je veux dire, la résurrection, le séjour des morts, l'enfer, il faut bien s'accrocher, hein, quand on veut partir dans un enseignement là-dessus, parce que c'est pas des thèmes tout simples. Mais c'est le Seigneur qui a décidé les choses comme ça. La Bible, elle est écrite pas comme un précis de doctrine. Des fois, on aimerait, hein. Alors, on y irait sous la case séjour des morts, c'est quoi? Puis voilà, paf, Seigneur, tous les versets qui vont, quoi, tous les passages qui vont avec, et puis hop, c'est réglé. La résurrection des morts, c'est quoi? Tac. Ben non, on doit se laisser imprégner par la parole du Seigneur. Et puis, la parole s'éclaire par elle-même aussi. Et avec le temps, on a aussi nos horizons qui s'élargissent. Puis de l'autre côté, ça veut aussi dire qu'on n'en a jamais fait le tour complet. Parce que c'est vaste. Hein.
C'est tellement vaste que le Seigneur à la croix, quand il y a eu les deux brigands, celui qui était... Les deux, c'était des brigands, parce que pour être crucifié, ils avaient sûrement fait quelque chose. Mais à un des deux, celui qui s'est repenti, qui a dit « Souviens-toi de moi dans ton royaume », qu'est-ce qu'il lui a répondu le Seigneur ? « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Il n'a pas dit « Au séjour des morts », il a dit « Au paradis ». D'où différentes notions au moment de la mort. Il n'y a pas que le séjour des morts. Le Seigneur a parlé du paradis au brigand sur la croix. Il n'a pas fait une halte au séjour des morts avant de bifurquer au paradis.
Le séjour des morts, c'est l'enfer, en fait. Hein. Moi, je pense.
Non. Ouais, on peut voir deux catégories. Séjour des morts, c'est un peu, entre guillemets, l'antichambre de l'enfer. C'est là où les gens
sont en attente
du jugement final. Parce qu'après l'Apocalypse, il est dit que ceux qui n'ont pas été inscrits sur le livre de la vie, comme l'Antéchrist, hein, c'est peut-être pas dans ce passage-là, après c'est un peu la confusion, pardon, mais ils seront jetés dans l'enfer, hein, dans l'étang de feu, hein, voilà, c'est l'étang de feu pour être dans la terminologie biblique. Donc, il y a. Ah, puis je peux peut-être revenir si je retrouve ça. Psaume 16, verset 10. Parce que tu parlais du paradis, hein, que Jésus il est remonté au paradis avec ce brigand.
Oui, et puis, il a dit sur la croix, c'est ce qu'il a déclaré.
Et puis ça fait aussi écho là au psaume 16, verset 10, qui montre que Jésus n'est pas descendu en enfer, hein, ou même au séjour des morts. Psaume 16, verset 10. C'est David, mais qui prophétise sur Jésus. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Hein? » Voilà, là on a un verset aussi qui atteste que Jésus n'est pas allé au séjour des morts, il n'a pas vu la corruption. Qu'une fois la mort arrivée, Dieu l'a rappelé à lui. Voilà.
Donc l'histoire du séjour des morts, où on parle de corruption maintenant, d'après ce que tu viens de lire, donc le séjour des morts serait empreint de corruption. Ce n'est pas une salle d'attente, en gros.
C'est une salle d'attente.
Tout est corrompu. Une salle d'attente. Puisqu'il parle de corruption. Hein.
C'est corruption, parce que c'est les gens corrompus qui s'y trouvent. Mais les gens qui s'y trouvent, j'imagine...
Qui sont endormis.
Ouais, alors ça, c'est... Alors, c'est une bonne question, hein. Ouais, mais ça devient pointu. C'est pour ça que hein, j'ai dit que c'est vachement pointu, des thèmes comme ça. Une chose, moi, je ne sais pas, ça, c'est mon imagination, mais je me dis, ceux qui sont là, je pense plus ou moins, ils savent déjà qu'ils sont jugés. Dans le sens qu'ils savent qu'il n'y aura pas... Il n'y a pas les béatitudes qui les attendent derrière. Hein. C'est un avant-goût, comme la parabole de Lazare, du riche et de Lazare. Hein, l'homme se retrouve dans le séjour des morts et il souffre déjà énormément dans ce lieu. Donc à voir, il n'est peut-être pas endormi. Mais j'en sais rien, hein, je ne vais pas faire une doctrine là-dessus. Hein. Ouais.
Ah, on n'est pas endormi, d'accord.
Mais oui, mais c'est des sujets vachement costauds. Moi, je ne suis pas forcément non plus tout clair par rapport à ça. Et puis voilà, mais bon, c'est le Seigneur qui nous éclaire. Et ouais. Moi, je pense que les gens sont conscients là-bas déjà, ouais.
Bon, il y a plein de versets sur le séjour des morts. Là, il y a 1 Samuel 2,6. Moi, je lis simplement sur le lexique ici, avec tout ça. Il fait descendre au séjour des morts. Ça, c'est une phrase, hein, je veux dire le contexte. Hein. Et puis, il y a aussi dans Job qui descend au séjour des morts et n'en remontera pas. Ça, c'est Job 7,9. Donc, il y a toujours cette idée de descendre. Ouais. C'est pas une idée de monter, ouais, c'est pas le paradis. Hein.
Puis que voilà, celui qui descend, il ne va pas y remonter. Hein. Donc, voilà. c'est dire déjà qu'il y a déjà un peu la notion. C'est pas le jugement, c'est clair, mais il y a déjà une notion du jugement.
Le psaume 49, il dit Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Tu délivres, et puis aussi.
Parce qu'on le mériterait tous.
Voilà.
Ouais. Mais.
Mais.
Il y a plein de versets, quoi. Le séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Ça, c'est dans Osée. Capernaum, abaissé jusqu'au séjour des morts, en Matthieu. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas. Mot pour le sort après la mort. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça, c'est Luc. Le séjour des morts l'accompagnait. Voilà, c'est tous les versets. Il y a aussi, bon, encore Apocalypse, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leur mort.
Voilà, ouais. Ouais, ça, c'est pour le jugement. Hein.
Ouais.
Parce que moi, je m'imagine comme ça, mais bon, franchement, c'est des vastes sujets. Hein. Ouais. Mais moi, je m'imagine comme ça, c'est que les gens vont être sortis du séjour des morts, ils vont voir la gloire de Dieu, la gloire du ciel et tout ça, et ils vont recevoir là leur condamnation, hein, et ils auront la seconde mort, voilà. Et ils seront jetés dans l'étang de feu. Ça va quand même être terrible, quoi, parce que les gens vont sortir de leur condition du séjour des morts, ils vont voir la gloire du Seigneur, et puis ils seront condamnés. Ouais. Bon. Alors, je passe à la suite.
La souffrance.
Donc la souffrance, est-ce que, bah, toujours par rapport à ces versets 1 à 6, il y a autre chose que vous auriez voulu relever?
Ici, moi je dis juste la note, je la trouve intéressante. Là. Certains sont prêts à tout pour éviter de souffrir, alors que cela même nous aide à ressembler à notre Seigneur. Nous devrions être prêts à faire la volonté de Dieu et à souffrir si nécessaire. Si notre vie est centrée sur Christ et sur sa volonté, le péché perd de son pouvoir. Il ne peut pas nous vaincre. Quand nous souffrons ou quand notre vie est en danger, nos vraies valeurs sont clairement révélées. Si nous sommes prêts à souffrir pour Christ en faisant la volonté de Dieu, c'est signe que nous avons vraiment rompu avec le péché. Ça, c'est...
Voilà. Amen.
Ouais, il dit aussi que la souffrance, au verset 3, 4, ça peut être aussi quand ta vie change radicalement. Tu peux essuyer le mépris de tes anciens amis, des gens qui t'entourent, etc. C'est aussi une souffrance. Hein.
C'est ça, hein. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, si on lit la suite, là, au verset 2, « Afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Donc, on n'est plus appelé à vivre selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et quand le cœur convoite, quelque part, petit à petit, il s'éloigne de la volonté divine. L'inverse de la convoitise, peut-être je vous l'avais déjà partagé une fois, mais c'est le contentement, hein, c'est l'état de paix, de plénitude dans notre situation présente. Et la convoitise, la première convoitise, c'était quoi? C'était l'arbre avec le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais par la grâce du Seigneur, encore aujourd'hui, Dieu nous donne sa paix. et puis nous indiquera toujours le chemin, nous soutiendra, nous relèvera, et ainsi de suite. Hein. Donc, je regarde juste l'heure, peut-être on arrive quand même à faire encore le verset 3, parce que j'avais amené quelques éléments là-dessus, j'avais préparé quelques éléments. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, pardon, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Alors, la dissolution, on pourrait traduire ça aussi par la débauche, l'impudicité, tout, en fait, ce qui est contraire à une vie pudique, hein. La dissolution, là on pourrait aussi traduire par le dérèglement, par une vie dissolue, hein. C'est quoi la dissolution? C'est une vie dissolue, une vie dans les excès. Les convoitises, c'est des passions malsaines, des désirs pour ce qui est défendu. La convoitise, c'est vraiment de cette manière-là que le diable cherche à amorcer nos cœurs. L'ivrognerie, alors là j'ai juste regardé en grec parce que des fois c'est intéressant de voir la culture grecque aussi. Alors c'est oinophlugia, et ça vient de deux termes en grec. Oinos, ça vous dit quelque chose?
Le vin.
Le vin, hein, voilà. Oinos, alors le vin, et puis l'autre partie du mot c'est fluaros, et qui veut dire causeur, personne qui braille, qui dit des choses insensées, insignifiantes, vaines, personne faisant des choses grossières, personne abrutie. Donc, on voit bien que l'effet de l'alcool dans l'Antiquité...
même que celui d'aujourd'hui.
Le même un peu qu'aujourd'hui. Hein? Donc, l'ivrognerie, voilà comment les Grecs appelaient les gens ivrognes. C'était des gens qui causaient trop d'une manière grossière et sans retenue et en disant des choses complètement insignifiantes. Donc, le Seigneur ne nous appelle pas à l'ivrognerie, hein, mais à être rempli du Saint-Esprit. Par contre, on peut boire de l'alcool. Et on a quand même certains textes qui nous laissent cette liberté. Mais Dieu veut pas qu'on s'enivre de vin et puis qu'on tombe dans la dépendance de l'alcool. Bien sûr que le Seigneur est plein de miséricorde et de grâce et Dieu nous relève, hein, si on tombe là-dedans. Hein. J'avance juste un petit peu sur les excès du manger et du boire. Là, je crois que c'est Aline qui nous a lu. Une traduction différente, les beuveries et les, parce que j'avais marqué ça aussi pour moi, les orgies, hein. Voilà, orgies et autres beuveries, alors ça suit aussi tout à fait le grec, et puis les orgies, c'était aussi, on peut traduire aussi par excès de table, hein. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui si on mange trop, il y a des conséquences aussi pour nos corps, hein. Et puis que des fois ça peut aussi cacher une forme de dépendance, hein. On peut être dépendant à la nourriture. Donc les orgies chez les Grecs, à savoir c'était des fêtes nocturnes et rituelles où on allait s'enivrer et un petit peu en fait comme les carnavals aujourd'hui. Hein, où il y a un côté rituel aussi dans le carnaval, parce qu'en fait, la fin de l'hiver, hein, on va brûler le bonhomme d'hiver. Et puis, bon, je vais pas tirer des flèches pour ceux qui font ça, mais ça peut franchement amener dans des comportements qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Hein. Et puis, je pense qu'un chrétien, ben, à un moment donné, s'il pratique de telles choses, le Seigneur va le ramener aussi sur le chemin. Parce que si tu participes au carnaval en étant complètement ivre et puis en rentrant dans des festivités en fait malsaines, je pense qu'en effet c'est pas pour la gloire du Seigneur. Donc les orgies et également j'avais dit les beuveries, hein, voilà, ouais, les beuveries, hein. Donc c'est vrai que la chair, elle nous conduit là-dedans. Et puis le dernier point, les idolâtries criminelles. Quelle a été la première idolâtrie criminelle? En fait, ça a été celle de Caïn contre son frère Abel. Pourquoi? Parce que Caïn a été jaloux du regard favorable que Dieu a porté sur l'offrande d'Abel. Et pourquoi Abel a été jaloux? Parce que, pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée, je voulais dire, pardon, parce qu'il l'a offerte avec une foi véritable et un cœur sincère, alors que celle de Caïn n'était pas basée sur une foi authentique. Hein. Dans la Bible, il nous est nulle part parlé de la foi de Caïn. Hein. On n'a jamais ce témoignage-là. Au contraire, on voit même, sauf erreur, je crois qu'il est, considéré comme le fondateur de Babylone. Donc, les œuvres de Caïn étaient mauvaises. 1 Jean 3, verset 12, on peut lire ça, après on arrêtera. 1 Jean 3, verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Hein? On voit, hein? c'était vraiment une idolâtrie criminelle. Parce qu'il était quand même spirituel quelque part, Abel. Caïn était spirituel, il a aussi offert une offrande, mais en fait c'était une offrande religieuse, c'était pas une offrande avec une foi authentique et une obéissance au Seigneur.
Le fruit de son travail personnel,
voilà.
C'est vraiment l'œuvre humaine. Hein.
Tout était basé sur la force de son poignet.
Pas l'agneau qui est.
Babylone, c'est exactement ça. Hein. Construisons-nous une ville à notre gloire. Hein. Faisons-nous un nom. Et Babylone, ça représente aussi toujours le côté religieux, où c'est toujours l'homme qui cherche à s'élever en direction du Seigneur. Et puis Hébreux 11, verset 4, qui nous parle ici de... Hébreux 11, verset 4, qui nous parle d'Abel. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hein? Voilà, un témoin de la foi, déjà, Abel, il est mort. Dans ce moment-là, ça a dû être dur pour les parents. Et pourtant, cette fois-là, il y a encore un témoignage aujourd'hui, et aujourd'hui pour nous. Hein. C'est une foi qui est encore vivante et qui porte encore des fruits que celle d'Abel, tandis que celle de Caïn, qui était une foi basée sur lui-même, n'a rien amené à la gloire du Seigneur.
Sur donc, lui-même, sur une certaine forme religieuse aussi.
Oui, oui.
Sur une forme, mais pas sur un fond.
Ouais.
Sur la foi, justement.
Ouais. Hein, ouais.
Pour nous. Hein.
Oui. Voilà, ouais, ça, ouais, c'est intéressant, hein, la notion. Fond et forme. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, que le Seigneur nous aide de façon, en effet, à ne pas rentrer dans les convoitises de la chair, hein, dans la pensée humaine, mais à rester ferme avec notre Seigneur. Et que si on le fait, ben, il y a de fortes chances qu'on va souffrir pour le Christ. Parce qu'il y a des gens qui vont nous rire, hein, qui vont nous rire au nez. Petit poisson, etc. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours. Donc, voilà.
Pas encore.
Ah ouais, bah, peut-être que tu n'as pas les oreilles tournées dans la bonne direction, tant mieux.
Petit poisson, hein, je veux dire.
Alors voilà, on peut s'arrêter là parce qu'on est déjà dépassé.